Radio Campus 88.3.
1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la tuerie au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il provoque une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de cash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue. Plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Le mardi à 19h sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, c'est à bâton rompu, magazine d'info. Ce mardi, nous parlons de la guerre au Soudan. Depuis un peu plus d'un mois, des troupes militaires rivales s'affrontent, de nombreuses victimes, des milliers de Soudanais et d'étrangers obligés de trouver refuge hors du pays. Rachel Chérif est chargé de communication pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il sera au téléphone avec nous dans l'émission. Deux sujets locaux également ce soir. Le premier avec Mourad Guichard, journaliste indépendant, vous connaissez maintenant. Depuis l'île où il se trouve, depuis quelque temps, il va nous parler dans sa rubrique d'une grève ici à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel dans les environs d'Orléans, un fleuron de l'industrie locale avec un patron, Emmanuel Vassenex, loué de toutes parts, mais pas par Mourad, vous allez entendre ça. En fin d'émission, Alexis Bosch, représentant syndical du personnel de l'Université d'Orléans, sera en studio avec nous pour parler d'un rassemblement ce midi devant la présidence de l'université à propos de revalorisation des indemnités du personnel. Voilà pour le sommaire pour À bâton rompu, c'est jusqu'à 20h, soyez les bienvenus.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Hassan.
Un sujet aujourd'hui avec toi pour ta rubrique dans À bâton rompu. On a appris donc il y a deux jours un appel à la grève du syndicat CGT de la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, grande entreprise locale. Un rassemblement avait lieu ce midi. Des salariés qui étaient mécontents des négociations annuelles obligatoires où le patron ne leur donnait que 50 euros d'augmentation. Ils avaient décidé d'un mouvement de grève. Ensuite, le patron est allé jusqu'à 115 euros, il me semble. Et ce patron-là, c'est de lui que nous allons parler dans ta rubrique, il s'agit d'Emmanuel Vassenex, un patron présenté comme un très grand patron social, et il est partout. Il était partout.
Alors, il est absolument partout. Il est capté par l'ensemble des dirigeants politiques, quelle que soit leur couleur. Je pense au département, à la région, à la métropole. Et il est présenté effectivement depuis plusieurs années comme le patron dynamique, le patron jeune, paternaliste et surtout le patron qui aurait, je dis bien, une fibre sociale très avancée, très développée. et qui en fait s'avère, d'après ce que disent les syndicats, s'avère être tout à fait dans les clous de n'importe quel chef d'entreprise qui réalise des profits très importants. Hein. C'est une énorme entreprise qui est, je crois, 16e sur son secteur. Et qui notamment favorise au moins dans le discours, favorise le fait que les producteurs de lait soient payés raisonnablement avec ce fameux c'est qui le patron, et on découvre là, parce que j'avoue que je ne savais pas, on découvre là qu'il y a des problèmes sociaux au sein de l'entreprise, notamment concernant les salaires, parce que c'est pas la seule revendication, mais c'est la principale revendication suite à la négociation annuelle, des problèmes qui effectivement, alors tu le précisais sur les fameux 115 euros, mais les 115 euros, c'est parce que il avait la menace de la grève, mais au départ c'était 50 euros d'augmentation.
Absolument,
et donc 50 euros d'augmentation aujourd'hui, je rappelle qu'on est en pleine période d'inflation. Et c'est juste pas envisageable d'avoir avec des revenus et un chiffre d'affaires record, il n'est pas envisageable effectivement qu'une entreprise qui se dit éthique et partageuse puisse n'accorder que 50 euros, voire maintenant 115 euros à ses salariés qui, eux, en réclament 300 par salarié. Et voilà, je trouve que c'est tout à fait, me semble-t-il, tout à fait justifié.
Ah, mais sur ces négociations annuelles obligatoires, je crois qu'il a signé, Emmanuel Vasselex, un accord avec la CGT. Et donc, il dit que l'accord est du coup valable maintenant. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, je l'ai appris.
Oui, alors... Midi. Alors, ce qu'il y a, c'est que les syndicats peuvent très bien signer un accord et que la base syndicale, elle, estime que ça n'est pas suffisant. Alors, c'est pas d'une logique implacable, hein, puisque normalement, quand on va signer, alors ça, c'est à vérifier. J'avoue que j'ai pas eu le temps de le vérifier, mais quand on va signer effectivement des accords salariaux, on a mandat avec un certain niveau d'augmentation raisonnable qui permettent de signer. Là, je ne sais pas exactement mécaniquement ce qui s'est passé, mais visiblement, la base n'a pas souhaité valider cet accord.
Et alors, on en revient au début. Emmanuel Vasselex a été présenté partout hein, comme le patron, comme tu disais, social, et par tous les bords politiques, en tout cas. Tu l'expliques comment ?
Alors, je l'explique parce que c'est une vieille tradition. Alors, je remonterai à 2010, au moment où nous avions c'était pour Libération à l'époque, où j'avais enquêté sur l'affaire Servier. Et idem, que ce soit dans la presse locale, que ce soit auprès des politiques, il apparaissait comme un patron paternaliste, qui est parti de rien, qui a fondé un empire, qui continue... Il y a plein d'images comme ça qui sont charriées, qui continuent à rouler dans une voiture bas de gamme, qui n'a pas de chauffeur, voilà. Et en fait, on a découvert derrière, évidemment, qui était réellement Servier, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça. Au contraire, c'est quelqu'un qui manœuvrait en coulisses, qui s'achetait le pouvoir à coup d'embauche, à coup de contrat, à coup de mission, qui s'est mis notamment Sarkozy dans ses petits papiers en le prenant comme avocat d'affaires et qui lui a permis de placer une partie de sa fortune à l'étranger, donc défiscalisé, donc il n'a pas profité au pays. Donc on a finalement été très très loin de l'image de ce fameux patron paternaliste. Alors ça a continué encore au début de l'affaire que nous avions en contribué à révéler, hein, puisque c'est le Figaro qui avait commencé, et puis nous avions nous raconté le système Servier. On était très loin, mais même au début, je me rappelle que localement les médias ne voulaient pas y croire. Alors d'abord parce que c'est un très gros employeur, ce qui est le cas également de la laiterie de Saint-Denis d'Hôtel. Donc c'est un gros employeur, c'est-à-dire ça correspond aussi à un nombre de lecteurs important, ça correspond à des publicités, ça correspond à toute une série de choses, ce qui n'était pas le cas pour Servier, puisqu'il n'y avait pas de publicité évidemment pour les médicaments. Nous sommes en France, mais il y a toujours cette crainte de mettre à mal l'une des entreprises symboliques la plus importante parfois de la métropole ou de la région. Et c'est exactement le cas, et c'est exactement ce qui se passe avec la laiterie Saint-Denis d'Hôtel. Donc il va falloir peut-être revenir à l'écoute des personnels et de leurs représentants pour savoir ce qui se passe dans une entreprise avant de glorifier et de valoriser un chef d'entreprise, quel qu'il soit. Hein. J'ai rien contre les chefs d'entreprise. Simplement, je dis juste que là, on est encore retombé dans l'espèce de storytelling, de belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire que de raconter que le patron de l'une des plus grosses boîtes de la région, est là pour faire du fric et pas forcément pour se pencher au chevet des des salariés, notamment sur ces revendications salariales qui, je le redis, hein, mais qui en ce moment, dans la période dans laquelle nous vivons, ne sont pas acceptables. On peut pas avoir des augmentations de 50 euros quand on sait que l'inflation ne permet plus d'avoir recours à la culture, de compter, oblige à compter systématiquement, comme tout le monde le sait, lorsqu'on va faire ses courses. Et je trouve que là, on a vraiment un exemple de quelque chose dans lequel tout le monde est tombé dans le panneau. Et là, se révèle un autre visage de ce chef d'entreprise.
Le message reçu de la part de la CGT et de la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel dit à la fin, les employés ne veulent pas de mesurettes sous forme de primes qui peuvent leur être retirées du jour au lendemain. Et au vu des bénéfices des actionnaires, cela ne devrait poser aucun problème et permettrait aux salariés de vivre plus dignement. Ils demandaient 300 euros par mois. Merci à
toi. C'est ça. Alors je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. C'est très important de parler effectivement de primes et de salaires, puisque à la fois on vit une période inflationniste, mais en plus il y a le débat évidemment sur les retraites, et que si ce sont des primes qui ne sont pas donc soumises aux cotisations, ça signifie que cette partie salariale ne sera pas justement ne comptera pas pour la retraite. Et quand on sait l'importance que peut avoir la retraite aujourd'hui avec le débat qui court toujours là. Je suis toujours à Lille. Oui. Dans le Nord, je vois là se préparer un cortège d'une retraite au flambeau, justement, pour continuer à maintenir la pression concernant la réforme des retraites. C'est toujours un sujet d'actualité. Je rappelle Absolument. Qu'il y a le 6, une journée d'action nationale, et le 8, le vote avec le groupe Liotte à l'Assemblée nationale d'une demande d'abrogation, d'une PPL demandant l'abrogation de la réforme des retraites. Donc on est vraiment là, on touche à tout, quoi. On touche à la fois au pouvoir d'achat, mais aussi à la question des retraites et des salaires qui seront, enfin des pensions qui seront versées à ces salariés dans quelques années.
Merci à toi, Mourad, pour ta participation.
Merci, merci à toi.
De qualité toujours, hein, dans À bâton rompu, et à mardi prochain.
Avec grand plaisir.
Et un petit rectificatif sur ce que vous venez d'entendre, l'accord signé à la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel a été avec le syndicat CFDT, pas CGT.
25 ans. 25 ans et pas une ride. Le superbe album de Massive Attack, Mezzanine, fêtait ses 25 ans il y a quelques jours. Quelques morceaux d'anthologie sur cet album, hein, avec notamment ce superbe Teardrop, à l'instant dans À Bâtons Rompus.
Sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Tous les mardis de 19h à 20h. Depuis 5 semaines maintenant, le Soudan connaît la guerre. 10 ans après celle du Darfour, qui a duré 17 ans, entre 2003 et 2020, un conflit qui oppose les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et des forces paramilitaires commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemeti. Ça veut dire petit Mohamed, si je ne me trompe. Et c'est vrai en plus. J'ai eu cet après-midi par téléphone Rached Chérif. Rached Chérif travaille à la communication du HCR, le Haut Commissariat pour les Nations Unies pour les réfugiés. Il était à Khartoum depuis quelques temps maintenant, quelques mois, et il se rappelle exactement du jour où tout cela a commencé. Écoutez-le.
Absolument. Le 15 avril, c'était un samedi matin, on vaquait tous à nos occupations et dans la matinée, on se retrouve surpris par des sons de canonnades, de mitrailleuses. Un début de week-end tout à fait normal et tout d'un coup, voilà, une guerre qui éclate littéralement au milieu de la ville alors que les gens sont en week-end.
Ce qui est étonnant, c'est que personne ne prévoyait cette situation, ni vous aux Nations Unies, ni la population civile.
Alors, il y avait des signes annonciateurs depuis plusieurs mois d'ailleurs. Les tensions entre les deux généraux rivaux qui s'étaient mis d'accord pour dégager les civils du pouvoir en octobre 2021 montraient des signes d'hostilité l'un envers l'autre, notamment pour l'intégration en fait de la force paramilitaire de l'un des deux généraux au sein de l'armée qui posait problème et qui faisait pourtant partie de la feuille de route pour une transition vers un pouvoir civil. Mais on a tous été surpris, pris de court. Les Nations Unies, comme les différents pays présents, toutes les ambassades se sont retrouvées très rapidement dépassées par les événements également.
Un rappel hein, pour nos auditrices et auditeurs, c'est une guerre entre l'armée légale, j'allais dire, du colonel ou général al-Burhan, face à une faction armée en fait.
Tout à fait, le général Hemeti, qui est à la tête des forces de réaction rapide, qui sont en fait les héritiers des Janjaouites, qui se sont rendus sinistrement célèbres lors de la guerre du Darfour, mais qu'on a aussi vu combattre au Tchad, en Libye et au Yémen, aux côtés de la coalition. Il y a une force paramilitaire très aguerrie, très bien équipée, à laquelle s'est adjointe de nombreuses nouvelles recrues. Et aujourd'hui, plus d'un mois après le début des affrontements, finalement, la situation est quasi équilibrée sur le terrain, avec chaque faction qui contrôle une grosse partie du territoire.
Et on va rappeler qu'il y a eu une trêve, hein. Il y a eu une dizaine de trêves. Il y a une trêve qui a été déclarée pour hier, mais qui n'est pas respectée. Hein.
Comme les précédentes, même si celle-ci était un peu plus porteuse d'espoir vu qu'elle avait été négociée sous l'égide des États-Unis, des Arabie Saoudite et qui prévoyait un mécanisme de monitoring, finalement n'a pas l'air de tenir plus que les précédentes puisque aujourd'hui encore il y a eu des affrontements à Khartoum et au Darfour notamment.
Et la population civile maintenant, tout de suite il y a eu la population civile est sortie dans la rue pour essayer de fuir les combats de Khartoum, comment ça s'est passé?
Alors, dans les régions les plus affectées, donc c'est principalement Khartoum, effectivement, le Darfour aussi, les 5 États du Darfour, où les gens ont fui par milliers. 6 semaines après le début du conflit, on est à peu près 1 million de déplacés, 840 000 qui ont essayé de trouver refuge dans les régions un peu plus sûres du Soudan, notamment à l'Est, et plus de 250 000 qui ont déjà franchi les frontières, notamment vers l'Égypte, mais aussi le Tchad, l'Éthiopie, et le Sud-Soudan.
Alors, est-ce que vous, au Haut Commissariat pour les réfugiés, vous étiez prêt? Parce qu'on en parlera tout à l'heure. Au Soudan, il y a énormément de réfugiés de pays alentours qui ont connu la guerre. Mais est-ce que vous étiez prêt? Est-ce qu'il y avait de la place pour les sécuriser?
Absolument. Alors, avant cette crise, le Soudan était déjà l'un des pays qui accueillait le plus de réfugiés en Afrique. Il y a plus d'un million de réfugiés, à 80% sud-soudanais. Mais également, on s'occupait de près de 3 700 000 déplacés internes et principalement par le conflit au Darfour. Donc il y avait déjà une situation humanitaire qui était très mauvaise, avec un manque de financement, et à cela s'ajoutent donc ces nouveaux déplacements. Il se trouve que les réfugiés, notamment ceux qui étaient à Khartoum, sont repartis en priorité vers les pays d'où ils venaient, ou alors dans les zones frontalières avec leur pays d'origine. Donc beaucoup ont trouvé refuge dans des camps qui sont déjà établis et où on accueillait déjà des réfugiés de la même nationalité. Mais même pour cela, la situation est compliquée parce que les financements manquent pour subvenir aux besoins de tous ces gens, et surtout des corridors humanitaires qui permettent d'acheminer les vivres, les abris, les médicaments sont aujourd'hui menacés. Certaines routes sont coupées, notamment l'accès à Khartoum, qui accueillait plus de 280 000 réfugiés sud-soudanais, est inaccessible pour nous, ce qui force donc ces gens qui sont dépendants de l'humanitaire à se rapprocher des zones où ils peuvent en trouver, notamment le sud et l'est. Et
vous parliez du financement, Rached. Il faut le dire maintenant, tout don est accepté. Il faut aller sur le site des Nations Unies, du HCR, et pour envoyer un don, c'est possible, toujours.
Absolument, il y a toujours, sur le site du HCR, un moyen de faire des donations. Également, on a de nombreux partenaires sur le terrain. Au total, il y a environ une centaine d'organisations humanitaires actives. Pour n'en citer que quelques-unes, Save the Children, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge évidemment. Au total, les Nations Unies estiment à 3 milliards de dollars, donc à peu près 2 milliards 800 millions d'euros, les besoins pour l'aide humanitaire d'urgence au Soudan et dans la sous-région, donc les pays frontaliers, et ce qui représente déjà une hausse de 800 millions par rapport au dernier budget d'avant-crise. Oui. Et 470 millions de dollars seraient dédiés uniquement à l'aide aux réfugiés au Soudan et dans les pays voisins.
Et tous les dons sont sûrs, enfin, ce qui arrive, c'est parce que ce sont des questions qui se posent quand même.
Absolument. Alors, pour le HCR pour lequel je travaille et sur lequel je travaille notamment en termes de reporting sur les financements, chaque financement est évidemment extrêmement transparent et l'utilisation des financements est accessible notamment sur les différentes pages du site du HCR. Il y a un site dédié à la crise au Soudan et il est tout à fait possible de savoir qui a donné quel montant et ce qui en a été fait, évidemment.
Et dans ces camps, avant qu'il y ait la guerre, qu'est-ce que vous faisiez, vous, Rached Chérif, et vos collègues bénévoles ou volontaires, on dit, des Nations Unies, dans des camps, après l'accueil d'une famille, disons une famille qui vient de l'Érythrée, il y a quoi ? Il y a accès à l'éducation, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites exactement ?
Absolument. Alors, les camps de réfugiés, on parle d'Érythréens, d'Éthiopiens depuis la crise, depuis la guerre au Tigré, de Sud-Soudanais depuis l'indépendance du pays et les affrontements qui se sont suivis, sont hébergés pour certains en camp. Alors pour ceux qui sont dans des camps, ils ont accès évidemment à un abri. Le Fonds mondial pour le Programme alimentaire mondial organise des distributions de nourriture. L'UNICEF avec le HCR construit des écoles, y compris dans les camps, pour l'accès au moins à l'éducation primaire et secondaire. Il y a également des cliniques qui sont opérées par nos partenaires, par exemple de Médecins sans frontières, mais pas uniquement. Et tout ça à travers des financements, soit qui viennent à travers le HCR. Donc le HCR récolte des financements de la part des pays donateurs et ensuite organise des programmes en lien avec tous ses partenaires.
Et les habitants de Khartoum, hein, c'est une ville de 5 millions d'habitants, hein, ceux qui n'ont pas pu fuir et qui sont terrés chez eux, est-ce que ils sont forcés de se rationner, mais est-ce que vous arrivez à les contacter pour au moins les nourrir?
Alors, le Khartoum, où par exemple mes collègues et moi-même sommes restés piégés entre guillemets pendant près d'une semaine, puisque l'aéroport a été très rapidement mis hors service, n'a plus d'électricité ou très peu depuis plus d'un mois maintenant, très peu d'approvisionnement des magasins. Beaucoup de magasins d'ailleurs ont été pillés par les miliciens. Donc il y a une réelle crise humanitaire à Khartoum. Le problème, c'est que les routes n'étant absolument pas sûres, il n'y a toujours pas de corridor humanitaire sûr. Il est très compliqué de faire parvenir de l'aide humanitaire à Khartoum. Les hôpitaux, pareil, puis les deux tiers des hôpitaux du pays ont été mis hors service. Donc, ce qui pousse davantage les gens qui le peuvent à prendre des bus, à prendre leur véhicule et à tenter de fuir vers des régions plus sûres où là, on est capable de les aider. Par exemple, au sud, dans la région d'Al-Jazira, de Guédaref, de Kassala, où on a des opérations, on a du personnel et nos partenaires également, on tente de distribuer de l'aide d'urgence à tous ces gens qui sont déplacés. Ouais.
Parlons d'évacuation maintenant. Vous-même, vous êtes en sécurité. Vous êtes je vous ai depuis Nairobi, au Kenya. D'ailleurs, Nairobi, pourquoi ?
Alors, Nairobi, pourquoi ? Parce que c'était, avant même la crise, chaque bureau des Nations Unies a ce qu'on appelle un safe haven, en fait, un lieu de mise en sûreté qui est identifié à l'avance, qui est l'endroit en fait le mieux adapté pour réceptionner les collègues évacués en termes d'infrastructures, d'hébergement, mais également d'espace dans les bureaux. Par exemple, aujourd'hui, je peux travailler depuis nos bureaux qui sont à Nairobi. Et en fait, très rapidement, voilà, après une semaine où les gens ont tenté d'abord de comprendre ce qui se passait, puis sont allés exfiltrer. Donc, des Français, par exemple, m'ont contacté plusieurs fois pour venir me chercher chez moi. Chaque ambassade a tenté d'exfiltrer un à un quasiment ses ressortissants vers des lieux de concentration dans un premier temps, des hôtels ou des ambassades, puis ensuite organiser ce qu'on appelle l'évacuation en tant que telle, c'est-à-dire soit par avion, soit par bateau. Alors par avion, il y a les Français et vraiment un petit nombre de pays qui ont réussi à se poser sur un aéroport militaire très proche de Khartoum, mais à travers des opérations un petit peu plus audacieuses, on va dire. Mais la plupart ont demandé à leurs ressortissants de tenter de rejoindre Port-Soudan, à près de 800 km de Khartoum. Et c'est là, moi-même, où j'ai passé les 6 dernières semaines, après que mes collègues aient été évacués. Et là, les évacuations se sont faites par bateau, notamment à travers des ferries saoudiens, mais également une frégate française, une frégate espagnole, un bateau militaire indien. Donc chaque nationalité a organisé l'extraction de ses ressortissants et d'autres ressortissants d'autres nationalités. Et
la France parle, le gouvernement français en tout cas parle de l'exemplarité de son évacuation. Il n'y a pas de pays africain, vous avez parlé d'Arabie Saoudite également, hein, et l'Égypte n'y a pas participé ? Il n'y a pas de pays africain qui ait participé à...
L'Égypte a évacué... Alors, ce qui s'est passé avec l'Égypte, c'est que d'abord, ils avaient des soldats qui ont été faits prisonniers au premier jour, puisqu'ils étaient en mission d'entraînement des pilotes soudanais. Ils ont été ensuite relâchés. Et l'Égypte accueille déjà beaucoup de gens à travers la frontière, qui est la frontière la plus proche et la plus sûre de Khartoum, au nord. Mais il n'y a pas eu d'opération égyptienne en tant que telle. Les Jordaniens ont envoyé plusieurs vols d'exfiltration de ressortissants jordaniens, mais d'autres nationalités également. Et au Darfour, puisque j'ai oublié de mentionner, des gens ont été héliportés puis transportés par avion militaire français depuis l'est du Tchad, des Français, mais également beaucoup de personnel des Nations Unies.
Et vous parliez du Darfour, il faut souligner également qu'il y a des combats tribaux qui s'ajoutent qui se mêlent à ces combats militaires, et c'est grave, justement, non ?
Alors, le principal risque dans cette région, c'est pas qu'un risque parce qu'on le voit déjà, ça a commencé, c'est que les différentes factions en guerre arment des tribus rivales. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est de rallumer finalement la guerre du Darfour, dont aujourd'hui, enfin, cette année, le 20e anniversaire, triste anniversaire. Et il faut rappeler que c'est 300 000 morts et plus d'1 million déplacés à l'époque, et aujourd'hui plus de 3 millions déplacés par les conflits qui ont suivi la crise du Darfour.
Dans Abattoir Rompu ce soir, Rachid Chérif, chargé de communication pour le HCR au Soudan et ancien journaliste. Ancien journaliste, vous l'êtes, Rachid. Est-ce que le côté journaliste est remonté là depuis le début des événements ? Vous avez documenté des choses ou pas ? Ou vous êtes resté très HCR ?
Alors, bon, il y a d'abord des règles qui font
bien
que...
Bien sûr, bien sûr.
Je ne pouvais pas...
pas publier, mais écrire pour le futur. Ou non, vous avez consigné des choses pour le futur, non ou pas ?
Oui, consigné des choses. Et puis, oui, il y avait l'envie qui revenait d'essayer d'aller peut-être sur le terrain au plus près des événements. Mais évidemment, les consignes de sécurité à la fois de l'ambassade et de nos organisations respectives nous empêchaient. Mais on comprend également qu'être reporter, surtout dans des situations de guerre, est un métier ô combien périlleux, et il faut saluer tous les correspondants qui risquent leur vie sur toutes les crises, non seulement au Soudan, mais ailleurs aussi.
Vous en avez côtoyé à Khartoum,
des collègues? Alors, par téléphone uniquement, oui. J'ai été en contact avec quelques collègues. Il y en a très peu aujourd'hui qui sont restés à Khartoum. La plupart font des correspondances depuis Port-Soudan, Jeddah en Arabie Saoudite ou Nairobi, parce que même la sécurité des journalistes n'est absolument pas garantie par les deux factions en guerre.
Et ça me permet de poser la dernière question, ou l'avant-dernière en tout cas. Comment voyez-vous le futur si cette guerre n'est pas filmée? Il y a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'images hein, vraiment de Khartoum ou du Darfour. Comment ça peut se terminer tout ça pour vous?
Et on a très peu d'images, d'une part parce qu'il n'y a presque plus de journalistes sur le terrain, quelques journalistes soudanais, mais également parce qu'il y a une coupure d'Internet. Il faut savoir que la connectivité au Soudan est tombée à moins de 2% de ce qu'elle était avant la guerre, en raison des infrastructures qui ont été abîmées. Mais le futur aujourd'hui est très incertain. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Soudan, Volker Peters, était hier d'ailleurs devant le Conseil de sécurité pour essayer d'obtenir des soutiens, non seulement à une trêve qui est censée avoir démarré mais qui ne tient pas encore, mais également pour une cessation totale des hostilités afin de pouvoir remettre en place un processus politique et surtout acheminer de l'aide humanitaire à toutes les personnes qui en ont besoin.
Et la toute dernière question, Rachel Cherif, est-ce que vous-même, une fois que la guerre sera finie, vous pensez retourner au Soudan, à Khartoum?
Alors, avant même la fin de cette guerre, puisque aujourd'hui j'ai été évacué, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais avoir droit à quelques semaines de récupération, mais il est prévu déjà que j'y retourne d'ici quelques semaines, à Port-Soudan pour commencer, dans les régions de l'Est, donc de Guédaref, à la frontière avec l'Éthiopie également. Oui, j'y retourne avant la fin du mois de juin, normalement.
Merci à vous d'être passé dans Un bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Rachel Cherif, prenez soin de vous surtout. Et bien, on reste en contact.
Avec plaisir.
Dans les années 70, Khartoum était un lieu de foisonnement culturel, vraiment quoi, hein, avec des musiciens de grand talent, des lieux également de théâtre et tout ça. C'était sous l'égide du président Néméri, président socialiste, mais un peu dictateur quand même aussi. Le Soudan, toujours dans le document qui suit, on en parle beaucoup sur Radio France Internationale, vous vous en doutez bien, et la revue de presse Afrique Matin hier était consacrée au Soudan pour savoir des choses sur comment ça se passe politiquement là-bas. Écoutez ça.
Et à la une de la presse ce matin, Frédéric Couteau, ce énième cessez-le-feu au Soudan.
Oui, les armes devraient se taire durant une semaine à partir de ce lundi soir. C'est ce qu'ont annoncé les médiateurs américains et saoudiens hier après deux semaines de négociations en Arabie Saoudite. Les combats dans la journée d'hier se poursuivaient malgré tout à Khartoum. En plus de cinq semaines de guerre, une dizaine de trêves ont déjà été annoncées, puis aussitôt violées, soupire le Point Afrique. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires FSR du général Al-Mehdi a fait un millier de morts dans ce pays d'Afrique de l'Est, l'un des plus pauvres du monde, et plus d'un million de déplacés et de réfugiés. Les infrastructures ont été très endommagées, relate encore le Point Afrique. La quasi-totalité des hôpitaux de Khartoum et du Darfour, frontaliers avec le Tchad, ne peuvent plus opérer. Et les médecins dénoncent les bombardements d'établissements de santé par l'armée de l'air ou l'artillerie des FSR. La plupart des 5 millions d'habitants de la capitale, terrés chez eux, pour ceux qui n'ont pas pu fuir, n'ont plus ni eau ni électricité. Les humanitaires réclament des couloirs sécurisés pour acheminer médicaments, nourriture et carburant afin de relancer des services déliquescents depuis des décennies.
Alors, Burhan et Mehdi sont-ils prêts à un cessez-le-feu durable? Question posée par Jeune Afrique au chercheur Roland Marchal.
Mehdi a une force combattante importante, mais dans la mesure où il n'a pas réussi à arrêter Burhan et à maîtriser la direction de l'armée soudanaise, il a quand même quelques difficultés, reconnaît Roland Marchal. Il occupe une partie de Khartoum, mais que peut-il gagner? Pas grand-chose aujourd'hui, pointe le chercheur. Une partie de ses conseillers disent qu'il est absolument prêt pour un cessez-le-feu et pour la mise en place d'un processus politique. Dans ce cas, il pourrait valider son alliance tardive avec les civils et se dire qu'il aura un rôle à jouer dans la suite. Burhan, lui, poursuit Roland Marchal, est dans une situation différente. Au sein de l'armée, les islamistes ont décidé qu'il fallait en finir avec Mehdi. Il y a une certaine conjonction avec l'Égypte qui pense que le patron des FSR est devenu un problème qu'il faut régler une bonne fois pour toutes. Le risque pour Burhan, poursuit Roland Marchal, s'il entre en négociation, est de diviser son armée et qu'une partie de celle-ci, notamment les islamistes, rompent avec lui. En plus, l'accord politique risquerait de le faire retourner à la situation née de l'accord de décembre 2022, qui ne lui était guère favorable et qui faisait la part belle aux civils. Cela pourrait aussi remettre en question l'unité de l'armée pour lui, donc il faut continuer à se battre.
La province soudanaise la plus touchée par ce conflit, c'est le Darfour, déjà meurtri il y a 20 ans.
C'est ce qu'explique dans Le Monde Afrique Jean-Pierre Filiu, spécialiste de la région et professeur à Sciences Po. Pendant que l'attention internationale reste concentré sur la capitale, une véritable bataille s'engage entre le FAS et les FSR pour le contrôle des aéroports du Darfour, sans aucune pitié pour la population civile. Les civils qui, pointe Jean-Pierre Filiu, traumatisés par les atrocités perpétrées après 2003, voient avec horreur le même scénario se répéter, où des supplétifs sont encouragés à commettre les pires violences, hier par les FAS, aujourd'hui par les FSR. Ils ne savent plus s'ils doivent craindre le plus une victoire de Mehdi à Khartoum, prélude à une nouvelle orgie de sang de ses fidèles dans le Darfour, ou bien sa défaite qui verrait les FSR humiliés et revanchards se replier sur la région qui les a vus naître. Et Jean-Pierre Filiu de conclure, pour ces malheureuses populations du Darfour, 20 ans après le début de ce terrible conflit, c'est une nouvelle descente aux enfers, loin, si loin de Khartoum et encore plus loin du reste du monde.
Frédéric Couteau pour la revue de la presse africaine, à retrouver évidemment sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.
À bâton rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Pour finir à bâton rompu ce soir, un invité dans notre studio, Alexis Bosch, représentant syndical FSU à l'Université d'Orléans. Une manifestation a eu lieu, Alexis Bosch, bonsoir.
Bonsoir.
Une manifestation a eu lieu devant la présidence de l'université ce midi. C'est la deuxième manifestation des personnels, la troisième même des personnels. Et les raisons de la colère, c'est une question de revalorisation des indemnités. Expliquez-nous.
Effectivement, les personnels BIATOS, donc administratifs et techniques, étaient appelés à à se rassembler là, pour la troisième fois ce midi devant le château de la Source, la présidence de l'université. Et nous étions encore à nouveau plus d'une centaine pour dénoncer les propositions de revalorisation du régime indemnitaire, donc des personnels administratifs et techniques, telles qu'elles sont présentées actuellement par le président de l'université. Alors, sans entrer dans les détails, mais pour que chacun puisse et chacune comprendre assez aisément, depuis 2 ans, théoriquement, l'Université d'Orléans aurait dû engager des négociations pour la revalorisation du régime indemnitaire des personnels administratifs et techniques, comme c'est le cas dans la plupart des universités françaises. Et ça n'a pas été le cas, ça a traîné. Et les propositions qui sont faites actuellement sont terriblement inéquitables, en fait, et injustes entre catégories de personnel. Donc, grossièrement, les catégories A, qui sont au sommet donc, de l'échelle, les trois groupes de catégories A auraient des augmentations entre 46 et 57% par mois, qui culmineraient jusqu'à 1600 euros par mois. Et puis pour tous les autres personnels, donc la moitié des catégories A, les B et les C, on est entre 19 et 21% d'augmentation.
Ça, c'est la proposition du président.
Ce sont les propositions du président et qui n'ont quasiment pas bougé.
Il n'y a pas de négociation. Enfin, il y avait.
En fait, il y a eu des réunions de négociation, mais il n'y a pas eu de négociation. Donc déjà, les deux premières, il n'est pas venu. La troisième, il est venu. Mais en gros, c'était pour quasiment ne pas changer l'enveloppe globale. Hein. Donc certes, les sommes sont conséquentes, puisque si on les multiplie par le nombre de personnels qu'il y a dans l'établissement, on est sur une enveloppe qui est à près de 800 000 euros. Le problème, c'est que c'est à la fois donc inéquitable et injuste entre les différentes catégories de personnel. Mais surtout, c'est profondément insuffisant au regard donc des pertes très conséquentes de pouvoir d'achat, mais notamment, surtout, en raison des graves problèmes d'attractivité de l'établissement. Donc notre université est dans une situation extrêmement particulière. Nous estimons qu'il y a en permanence entre 70 et 80 postes de personnel administratif et technique qui sont vacants. C'est énorme par rapport Absolument. Au nombre que nous sommes. Ce qui veut dire très concrètement des difficultés de fonctionnement dans les services qui sont récurrentes, que les étudiants voient bien dans les services de scolarité, par exemple, et qui font que c'est un espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que plus vous avez de difficultés à faire fonctionner vos services, plus vous en avez à recruter de nouveaux personnels qui restent, parce qu'on a des collègues, notamment contractuels, qui arrivent, mais qui ne restent pas. Quand ils voient les conditions de rémunération et quand ils voient la désorganisation administrative de l'établissement. Et donc la question du régime indemnitaire n'est pas uniquement qu'une question annexe salariale. Elle pose aussi la question du bon fonctionnement de l'établissement. Donc on est sur un volume extrêmement énorme de postes vacants. Je ne parle même pas du nombre qu'il nous faudrait pour fonctionner, parce qu'il y a eu aussi des suppressions de postes. Et un des chiffres, l'autre grand chiffre hein, qui illustre tous ces dysfonctionnements, c'est que en décembre 2021, lorsque le conseil d'administration vote le budget 2022, celui-ci est présenté en déficit de moins 6 millions d'euros. Bon, ce qui illustre les difficultés de l'établissement par ailleurs, budgétaire. Et un peu plus d'un an après, lorsqu'on examine le compte financier, c'est-à-dire lorsqu'on fait le bilan, de ce budget, il s'avère qu'on est à 11 millions d'euros d'excédent. On a donc 17 millions d'euros de décalage entre la prévision et le réalisé.
Comment il explique ça ? Comment l'explique le président de l'université ça, vous êtes membre du CA, est-ce que vous en avez parlé au CA ?
Bien sûr, c'est des questions. Bon, les réponses ne nous satisfont pas. Pour nous, la principale raison qui explique cela, c'est la difficulté de la prévision et du suivi budgétaire. Pourquoi ? Parce que justement, il manque des personnels qualifiés et en nombre pour assumer. Les autres réponses qu'on a, c'est maintenant, les composantes ne dépensent pas assez. Donc. Et oui, elles sont en grande difficulté pour le faire, puisqu'elles-mêmes manquent de personnel pour pouvoir suivre la dépense publique. Au final, le tableau est extrêmement noir. Hein, parce que si on y ajoute le fait qu'on a perdu 2000 étudiants en un an, ce qui est colossal, hein, on est passé d'un peu plus de 20 000 à 18 000. Et là aussi, on n'arrive pas à engager le débat pour avoir des véritables explications sur les raisons de cette perte très conséquente d'étudiants qu'on ne voit pas dans la plupart des autres universités de taille équivalente.
Dans un courrier que je me suis procuré, le président de l'université au personnel Biat explique que les catégories A doivent être révalorisées. Il en va de l'attractivité de l'université. Vous vous parlez de mépris, clairement.
Oui, parce que c'est ressenti ainsi et c'est normal par les collègues, parce que nous faire croire qu'une université ne pourrait fonctionner qu'avec ce qu'ils appellent le haut encadrement est absurde. Enfin, nous avons besoin de tous les corps de métier, de tous les métiers dans notre établissement. On a besoin du secrétariat dans les scolarités, on a besoin des espaces verts, on a besoin des collègues qui s'occupent des TD et des TP dans les laboratoires de recherche, comme on a besoin des ingénieurs, des informaticiens, etc. Résumer uniquement l'attractivité des métiers administratifs ou techniques à quelques dizaines de postes de haut encadrement, c'est absurde. Et ça met d'ailleurs en difficulté ces mêmes collègues, hein, puisque la plupart d'entre eux ne souhaitent pas qu'il y ait cette telle distorsion dans le traitement du régime indemnitaire. Surtout, ce mouvement, il est très inhabituel, hein, chez les personnels Biatos à l'Université d'Orléans. C'est relativement inédit. Et c'est aussi une chance pour ses collègues d'exprimer un profond mal-être, un profond malaise.
Et il ne vient pas vers vous, Éric Blanc, quand vous êtes devant le château discute.
Ce midi, bon, il est venu discuter. Nous lui avons tendu le micro, hein, de notre sono syndical, et donc il est venu s'exprimer. Bon, je ne cache pas que ça s'est pas très bien passé. Voilà, et les collègues qui sont là avec leur sifflet, leur casserole, leur tambour. Ou leur corne de brume, il y a un fossé qui s'est constitué entre l'équipe présidentielle et une grande partie des personnels administratifs de cet établissement.
Rodrigue est avec nous. Rodrigue est donc journaliste de la rédaction étudiante de Radio Campus, mais également au CA. Hein, Rodrigue, hein, tu es délégué, comment vous dites ça ?
Suppléant au conseil d'administration.
Tu es
représentant suppléant au conseil d'administration.
Tu as assisté au débat sur la revalorisation au CA ou pas déjà ? Et quelle est la place des étudiants ?
C'est vendredi.
Ah oui, vous allez voter vendredi là. Mais qu'en pensez-vous ? Parce que tu fais partie d'un syndicat d'étudiants. Que pensent les étudiants de ça ?
Bah déjà, en tant qu'étudiant, c'est un peu compliqué de comprendre aussi
bien sûr.
Tout ce qui tourne autour, donc le conseil d'administration, c'est assez intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre à quoi correspond toute la vie universitaire, comment ça fonctionne aussi, les composantes et tout autour des composantes, enfin l'université en elle-même. Après, on essaye de se renseigner comme on peut, on essaye d'écouter, mais en conseil d'administration, on fait surtout comme on peut et on essaye de prendre en compte l'intérêt des étudiants.
Tu nous as déjà dit dans une émission précédente à Bâton Rompu que vous manquiez, tu es étudiant en faculté de droit, économie et gestion, que vous manquiez de personnel. Ce que dit Alexis Bosch, est-ce que ça fait écho à ce que tu dis ? Est-ce que tu parles toi de prof ou également de personnel ?
Oui, le personnel administratif, on en manquait par exemple concernant le bureau des relations internationales en droit, économie, gestion. Et il y a des collègues par exemple qui ont dû faire leur démarche complètement seule ou sinon elle devait se reporter vers le bureau des relations internationales mais de l'université et non pas de DEG. Donc enfin on a des difficultés d'accompagnement pour les élèves qui souhaitent notamment partir en Erasmus et ça c'est problématique parce que enfin d'autres universités on retrouve pas ce problème là.
Est-ce que ton syndicat, vous le relevez, ça, devant Éric Blanc, devant les élus au CA ou pas ? On va dire, tu es au campus.
Oui.
Est-ce qu'au campus se bat au CA pour ça ?
En tout cas, moi, j'essaye de faire remonter les choses. Ouais. Après, normalement, enfin, au campus, normalement, on fait des réunions avant chaque CA.
D'accord.
Pour mettre en place une liste et de toutes les problématiques et se positionner sur tous les points qui vont être évoqués durant le CA.
Alexis Bosch, quelle place peuvent avoir les étudiants et étudiantes dans ce combat-là ? Est-ce que vous les avez approchés ?
La première chose qu'on a souhaité faire, que la FSU a impulsé, puis surtout que les collègues bientôt s'en sont emparés, c'est couvrir en fait le campus d'affiches et d'affichettes pour expliquer le fait que Il y avait bien sûr des questions donc, de primes hein, qui ne sont pas forcément compréhensibles et intéressantes. Mais il y avait aussi l'autre question, c'est l'autre affiche qu'on a fait mettre un peu partout sur le campus, qui était de dire, sur l'affiche, j'avais marqué la chose suivante, hein, « Monsieur le Président, il n'y a pas d'université sans personnel biatos. Il faut une revalorisation indemnitaire équitable pour tous et toutes. » Et donc de couvrir le campus de ça pour que justement les enseignants-chercheurs, les étudiants puissent voir, avoir conscience, sans rentrer nécessairement dans le détail de la négociation, mais avoir conscience qu'il y avait donc un malaise qui se faisait jour publiquement. C'est-à-dire que remonte enfin à la surface cette envie des collègues de défendre au quotidien le service public, de continuer à remplir leur mission, mais de se sentir en situation de ne plus pouvoir le faire en fait, correctement. Et donc, bon, voilà, alors je ne vous cache pas qu'avec ces affiches, voilà, il y a quelques petits soucis. Ils n'ont pas, été appréciés par tout le monde. Il y en a quelques-unes qui ont été affichées, mais ce n'est pas grave. On en a remis d'autres, les collègues en ont remis d'autres. Parce qu'effectivement, nous pensons que pour un certain nombre d'enseignants-chercheurs, malheureusement, les personnels administratifs et techniques sont des personnels de seconde catégorie dans l'établissement. Et que sortir de cette invisibilisation avec ce mouvement public interne qu'on a voulu faire, c'est à la fois inhabituel, mais c'était aussi, je pense, pas toujours très apprécié de personnels qui pensent qu'en gros, une université, c'est d'abord des enseignants-chercheurs. Or, ils oublient que c'est normalement d'abord des étudiants et des étudiantes. Et puis ensuite, c'est des personnels pour remplir les missions que la nation nous confie.
Rodrigue.
Oui, bah c'est sûr. Enfin, dans les composantes, ce qu'on voit surtout, c'est que, par exemple, on est 40 par groupe de TD et qu'après, on s'étonne qu'il y a des taux de pourcentage ou de réussite qui ne sont pas normaux. Il ne faut pas s'étonner quand on n'est pas en capacité d'encadrer les étudiants. Forcément, au niveau du taux de réussite, ça s'impacte aussi. Donc, voilà.
Vendredi prochain a lieu ce fameux conseil d'administration qui va parler du RIFSEP. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on...
C'est l'acronyme.
Qu'on dit. Qui va être voté. De toute façon, c'est le président et une majorité. Ça se débat.
J'en suis pas. Enfin, on va voir. Hein. Donc, de toute façon, la veille, donc jeudi, il y a de nouveau un rassemblement à midi des personnels administratifs et techniques devant le château. Et puis on verra. De toute façon, il y aura une discussion hein, encore extrêmement, je pense, argumentée vendredi matin en conseil d'administration. Jusqu'à présent, les questions des personnels biatos avaient quand même donné lieu à pas mal de débats, et notamment lorsqu'il y a eu des suppressions de postes, etc. Les décisions n'ont pas été aussi franches et aussi nettes en faveur de l'équipe présidentielle. Je pense qu'ils auraient pu l'espérer. Donc on verra vendredi matin. De toute façon, quel que soit le résultat, pour nous, FSU, comme pour beaucoup de collègues biatos, ça ne marquera pas la fin des revendications que nous entendons mener pour arracher de meilleures conditions de travail et pour que soit plus largement reconnue notre participation incontournable à aux missions de formation et de recherche de l'établissement.
Une dernière question, et si quand on fait une comparaison avec d'autres universités, ça se passe autrement? Est-ce que ces revalorisations-là ont été acquises dans d'autres universités ou tout est conflictuel en ce moment?
Avec la loi LRU et l'autonomie des universités, effectivement, chaque université est maître de son calendrier en termes de revalorisation indemnitaire. Nous devons être sans doute parmi les dernières, ça a beaucoup trop traîné. Et donc, effectivement, selon les spécificités locales, il peut y avoir des manières différentes pour les équipes présidentielles d'envisager la question. Mais là, aujourd'hui, même en regardant les augmentations qui sont proposées, nous, ce que nous constatons, c'est que, par exemple, pour les collègues qui sont affectés en lycée, en collège ou au rectorat d'académie, si on ajoute ce RIFSEP à un autre acronyme qui s'appelle le CIR, enfin, en bref, si on fait le total de toutes les primes, ce sera supérieur à ce qu'aujourd'hui l'Université d'Orléans offre. Et donc, cette question de l'attractivité de l'établissement va persister. Et il y a de fortes chances, malheureusement, que les départs de collègues, qui ont été très nombreux ces dernières années, s'accélèrent encore.
Rodrigue, je te laisse le mot de la fin.
Oui, j'avais juste une question. Il y a les experts du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui est un service gouvernemental d'évaluation et d'accréditation, qui viennent aussi cette semaine sur l'université, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce rassemblement ce midi. C'était un petit peu pour eux, parce qu'ils n'étaient pas très loin en audition. Et demain matin, on est reçus par eux. C'est la première fois qu'ils reçoivent des représentants des personnels administratifs et techniques. C'est vraiment inhabituel. À mon avis, ils avaient déjà un petit peu connaissance des difficultés en la matière de l'établissement. On n'est pas complètement inconnu, l'Université d'Orléans. Hein. Quand on a un président qui a besoin de 18 tours de scrutin pour se faire élire, vous pensez bien qu'au ministère ou à l'HCERS, on nous regarde d'une manière un petit peu particulière. Donc on n'a pas été finalement très surpris d'être pour la première fois audité, comme on le sera demain matin. On pense que cette question du régime indemnitaire et plus largement de l'attractivité de l'établissement sera abordée.
Merci Alex Kibosch.
C'est moi qui vous remercie.
Nous allons continuer à suivre ça évidemment hein, sur cette demande de revalorisation des rémunérations, que vous soyez patron ou président d'université. Augmenter les gens, les prix augmentent et tout ça. Quand il y aura les émeutes de la faim, vous allez voir, ça sera peut-être pire. On termine à bâton rompu en musique. Ce soir, en attendant, Ride On, ils sont déjà là et le retour de l'ami Jay au platine bientôt à Tours. Je crois qu'à 20h, il y a un happening féministe. Je crois que c'est ça. Si vous êtes à Tours ou même à Orléans, branchez-vous dessus. On va terminer en musique avec un autre hommage. Tout à l'heure, c'était Mezzanine avec Massive Attack. Et cet album-ci, allez, tu connais ça, Alex? Tu connais ça? Écoute ça, écoute ça. Hein? Ah, ça c'est. This is my thing. Il y a 30 ans, Jazz Mata sortait avec Guru. Excellentissime album. Pour terminer, bâton rempli. 2-3 minutes à l'écoute et ensuite, Ride On.
Yeah. I'm a brother they depend on, lean on. So now I gotta be gone. I gotta keep strong.
Yo.
Busy kid, cause I can never fall off. Laziness ain't getting to me. There's too much opportunity. And I'm not waiting for no one. Cause slow ones, they don't get nothing done, son. Short sport, make a move or get caught. Nothing lasts forever, baby. Maybe you shouldn't act so crazy. Instead of trying to be the man, you could really be the man if you had a plan, understand? But I'm not the one to be waiting for you. Back in the day, I used to do stuff for you. Now I'm warning you that you really ain't no pimp, you wimp. Every day, I need the cash money. With my rhyme display, I may take all the bait for a while. I guess I have the know-how. When you see me in the house, you better go, what's up, G? What's up, Gaz? Now give me a pound because I've been down, dedicated, and I've waited for my turn. Cause respect is something you earn.
Ok. Merci Hassan, l'équipe d'Abaton Rompu.